Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute maison, c'est un seul sujet et trois intervenants réunis virtuellement par une connexion parfois précaire, mais animés par le même désir de parler d'objets de culture qu'on peut trouver facilement dans cette période singulière. Avec moi, François Angelier et Victor Massé de l'Épinay, producteurs respectivement de Mauvais Genre et du Rayon BD sur France Culture. Littérature, aujourd'hui, on parle d'un roman paru il y a quelques mois. Ce roman s'appelle Cowboy de Jean-Michel Espitalier et il a paru aux éditions Inculte. Le cow-boy de l'histoire, c'est le grand-père de l'auteur, Eugène, qui a quitté ses Alpes natales un beau et mystérieux jour pour tenter sa chance en Californie, avant, un tout aussi mystérieux jour, de rentrer chez lui. Tous ces mystères font la matière du livre, un récit nourri de références et de l'imagination de Jean-Michel Espitalier, qui a déjà commis une vingtaine de livres et qui est aussi, par ailleurs, musicien et poète. En quelques mots d'abord, votre avis sur le livre, Victor Massé de l'Épinay.
Un livre aussi insaisissable pour son lecteur que ne l'est son sujet pour son auteur. Voilà. Formule, mais...
Pas mal, pas mal. François Angelier.
Une belle chevauchée de la mémoire, parfois gratuite, mais souvent émouvante.
On écoute tout de suite la première page du livre, lue par Boris Pineau.
Mon grand-père s'appelait Eugène. Eugène gardait les vaches. Mais c'était en Californie. Alors Eugène était cow-boy, c'est tout ce que je sais de lui. Les mythologies des familles sont des constructions en équilibre instable, agencement de petits faits pas vrais, récits au tamis, tri sélectif et bricolage pour que l'histoire présente bien. Il y a les braves types surexposés sur les commodes, il y a les drôles de loustiques enfouis au fond des tiroirs. La gloire ou le passage à la trappe. Pour mon grand-père Eugène, ce fut la seconde destination. Dans Omerta, il y a mort. Je vais vous raconter l'histoire d'un cow-boy solitaire. Au début, il est pauvre. Il est partout loin de chez lui. Mais bien avant l'histoire du cow-boy solitaire, long, long time ago, il y avait eu les très lointains avants de tous les avant-commencements des histoires du monde. Jusqu'à l'avant-début. Et même encore avant. Ça tourne.
Alors, Victor Massé de l'Épinay, on vous sent plein de doutes sur ce roman.
Oui, plein de doutes, parce que c'est un livre insaisissable. C'est un livre qui est inclassable, un livre qui est composite. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Vous avez un peu expliqué le propos. Ce n'est pas vraiment une biographie de l'ancêtre de Jean-Michel Espitalier, du grand-père d'Espitalier. Ce n'est pas vraiment une enquête. Vous avez évoqué, Lucille, deux mystères, mais de ces mystères, il n'en est pas vraiment question. Ce n'est pas un tombeau, comme on pourrait faire un hommage à ce grand-père disparu. Ce n'est pas vraiment non plus une quête intime. Et Jean-Michel Espitalier ne prétend d'ailleurs à rien. Il ne dit pas que ce sera l'un de ces gens. Il ne nous déçoit pas en ce sens-là. Il ne prétend à aucune objectivité. Il ne prétend pas à l'exhaustivité des sources. Il ne prétend pas à une enquête historique. Et donc, en ce sens, il dit ce qu'il veut. Et sur le fond, presque, j'ai envie de dire, on n'a rien à lui opposer. Il raconte bien ce qu'il veut. On ne va pas lui dire peut-être qu'en fait, votre grand-père a eu une vie tout à fait terne, qu'il est resté en surface des choses, qu'il n'a rien vécu, qu'il n'avait pas dans ses yeux délavés le manque des grands espaces quand il est rentré, etc. Ça, c'est son histoire et c'est très subjectif, donc il a le droit. Ce sur quoi on peut parler, à mon avis, c'est sur la forme, puisque ce livre est inclassable. À mon avis, il tient finalement plus du recueil de poèmes que d'autre chose. Eugène, c'est un vide pour Jean-Michel Espitalier. Et il dit au début... Il va remplir le vide avec des choses fabriquées, des jeux de pistes, des empilements. Il tient son engagement, c'est vraiment ça, c'est un vide qui se remplit de fragments épars, un peu comme des poèmes, ordonnés, sélectionnés, peut-être pas assez sélectionnés à mon goût. L'extrait, la première page qui vient d'être lue, montre trois débuts, ou trois faux débuts. On a l'impression que les trois ont été écrits, puis que, sachant que les trois sont pas mal, mais il n'a pas su lequel choisir, il a mis les trois, et puis finalement... Après cette première page, il repart d'ailleurs beaucoup plus loin. Il repart en trois pages, une grande création du monde depuis l'avant Big Bang jusqu'aux premiers hommes, etc. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a quelque chose parfois dans ces matériaux composites. Il y en a qui sont très réussis, il y a des très belles pages, et puis il y en a qui sont plus superflues, plus fastidieuses, et quelquefois, à mon avis, un peu matu-vues et un peu irritantes.
Bon, on va rentrer dans la chair du livre. François Angelier, votre avis?
Pour moi, c'est un livre qui a été écrit à la lumière de Blaise Cendrars, sous l'influence quand même de la prose du Transsibérien. On y trouve le même souci d'une poésie swingante, cavalcadente, quasi expérimentale, beaucoup moins aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque Cendrars. Donc il y a cet aspect-là qui est légitimé par le fait de la pratique de la langue et de la musique, puisque Spitalier est poète et Spitalier est batteur de jazz. Donc il y a sûrement chez lui cette volonté d'une pulsation, d'un rythme, d'une espèce de danse comme ça, à la fois verbale et psychologique, qui voulait matière. Je pense qu'à ce niveau, c'est tout à fait réussi. Et effectivement, à la manière de Cendrars, il revisite une figure mystérieuse de son patrimoine familial qui est son grand-père. Et le fait que l'on sache peu véritablement de ce qu'a fait le grand-père aux États-Unis permet au contraire d'emplir complètement d'un matériau poétique et fantasmatique ce qu'a été la vie de ce grand-père. En tablant sur une analyse, une exposition historique de ce qu'étaient les États-Unis à l'époque où grand-père Eugène y a vécu. Alors effectivement, ça donne lieu, on part, il y a un horizon mythique, mais ça c'est très cendrarsien d'ailleurs, on part du Mésozoïque, on part quasiment de la naissance du monde pour inscrire le destin minuscule du grand-père dans l'épopée géologique, historique et biologique de l'homme. Alors c'est d'autant plus intéressant que cet homme au destin infime s'inscrit dans une espèce de vision planétaire. Et puis après, alors là, c'est peut-être là où c'est un peu long. Il y a toute une espèce de présentation de ce qu'était la cruauté de la vie et la violence, la sauvagerie de cette Amérique des débuts, notamment les barons voleurs, les premiers capitalistes effrénés et délirants, et puis les lynchages, tout ça. Alors là, par contre, on perd de vue le grand-père, mais j'avoue que c'est une sorte d'exercice cendrarsien quand même assez réussi.
Oui, moi j'ai été un peu comme Victor au départ, je crois. La lecture des premières pages indique une forme d'exercice de style qui peut tourner autour de force. Il faut dire quand même que c'est un livre qui fait que, entre guillemets, 120 pages, mais à l'intérieur duquel on trouve des poèmes, des chansons, y compris des chansons en anglais qui sont traduites. On trouve des listes. Il y a par exemple une liste de noms de villes américaines qui ont été nommées d'après des villes européennes par les premiers colons. Il y a des pages de noms de tribus indiennes à l'intérieur. Il y a vraiment des morceaux à la première personne, donc qui tiennent vraiment de l'autobiographie pure, surtout à la fin. Tout ça concentré dans un petit récit qui est extrêmement riche formellement, mais dont on peut, j'y reviendrai peut-être après, dont on peut du coup douter de la richesse fondamentale. On peut craindre le pur exercice de style. Je trouve que ça, il y a un basculement qui s'opère dans le récit. Je sais pas si ça a fonctionné comme ça pour vous, au moment où justement Eugène rentre chez lui et où s'articule cette grande description des États-Unis au début du XXe siècle à l'expérience intime et du coup émotionnelle, purement affective, de son auteur, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce point de bascule, mais qui arrive assez tard dans le récit. Et auparavant, en effet, il y a tous ces matériaux composites que vous évoquez. Et c'est vrai que si on enlève ces pages qui sont chacune à sa façon un peu des tours de force littéraire, puisque vous avez employé cette expression, il reste en effet très peu de choses. Ça ne veut pas dire que, en fait, ce qui reste n'est pas censé être le squelette et sur lequel viennent se greffer des morceaux. C'est un peu un matériau composite. Mais je voudrais revenir justement sur ces listes que vous avez évoquées, puisque la première liste, il y en a beaucoup des listes, et elles sont, à mon avis, inégales. Mais alors, la première liste que Jean-Michel Espitalier nous donne, c'est celle des Champsauriens, puisque c'est ça, la région d'origine d'Eugène, qui sont partis vivre aux États-Unis. C'est une liste assez émouvante, puisqu'on a tout un tas de noms de gens anonymes de l'histoire qui sont partis. Alors, on a Victorine Lombard de Forest Saint-Julien, qui est partie travailler dans un ranch du côté de Los Angeles. Martin Ceinturier, d'Ancel, champion de rodéo à Stockton, qui reviendra en France en 1917 avec l'armée américaine et se fera tuer dans la Somme. On a les frères Guillard, qui sont partis à Price, Utah, avant d'y ouvrir une épicerie sous le nom de Guillard Brothers. Tout ça, c'est très émouvant. Ça fait penser à Éric Guillaume, un 14 juillet, ces grandes listes d'anonymes qui ont pris la Bastille. Et alors, ces listes, c'est à la fois à la mode, puisque c'est à la mode un peu dans l'historiographie aujourd'hui de rétablir les anonymes comme ça. On se demande, est-ce que ce sont des vrais personnages? Est-ce que ce sont des vrais noms? Et on espère que oui. Et alors, à la fin de cette liste, il y a quand même quelqu'un qui est extraordinaire. Jo Mourin Lawrence, ou Jo Mourin Lawrence, de Chauffeyer, qui fit fortune à Los Angeles en inventant le bidon d'huile d'un litre. Alors, je savais qu'on pouvait inventer le bidon d'eau tiède, mais je savais pas qu'on pouvait inventer le bidon d'huile d'un litre. Alors là, je me dis, mais est-ce qu'il l'a inventé ou est-ce que c'est vrai? J'ai cherché si ce Jo Mourin Lawrence existait sur Internet et je suis tombé sur un site d'un érudit local du Champsaur, sur cette liste que Jean-Michel Espitalier recopie presque dans son livre. Alors ça montre quand même quelque chose, c'est que ces listes aujourd'hui, avec Internet, le statut de la liste dans une œuvre de fiction a changé. Quand Umberto Eco nous fait des listes des monstres sur le portail d'une cathédrale médiévale, on se dit, mais comment est-ce qu'il sait tout ça? Il y a une érudition fascinante qui saute aux yeux. Là, aujourd'hui, les noms des listes de villes américaines qui sont des copies de villes européennes, les noms des tribus indiennes, etc., ben, on sait que ça existe, on sait qu'on peut les trouver en deux clics, et ça fait un peu agrégat de choses. C'est plus surprenant et c'est un peu décevant. Il y a d'autres listes qui sont très bien, par exemple celle de ce que Eugène va acheter à la foire. Alors là, c'est plus littéraire, elle fait plusieurs pages et ça dit vraiment quelque chose de ce qu'était la vie américaine en 1900. Celle-là est plus réussie.
Mais je pense qu'il y a un regard qui est assez à distance sur justement ce que c'est que l'érudition et sur ce que c'est que faire œuvre de mémoire sur un territoire singulier, presque faire œuvre d'archiviste ou de passionné de généalogie. Aujourd'hui, justement, à l'heure d'Internet, à l'heure où Wikipédia peut nous sortir un portrait de New York en 1900 tel que, évidemment, il y a 50 ans, il était inimaginable de le concevoir. J'ai l'impression, mais bon, peut-être François Angelier va en dire davantage, que ça, c'est pris en compte dans la posture du narrateur, la manière dont il se met en scène lui-même en cherchant quelque chose. Ce qu'il cherche, dans le fond, c'est pas imaginer les États-Unis de son grand-père, parce que ça, c'est très facile. C'est ce qu'il nous donne, en tout cas, en nous donnant des listes, en nous donnant des paysages, etc. Ce qu'il cherche, c'est probablement plutôt un rapport entre son père, son grand-père et lui, ce qui advient en effet assez tard dans le livre à la fin, mais qui est quand même assez passionnant, je trouve. François Angelier.
Oui, alors, pour ce qui est de la liste, c'est un genre littéraire. De Rabelais jusqu'à Jules Verne, on a quand même une succession de virtuoses autour de la liste, qui est vraiment comme une forme de poésie. Les listes de villes, par exemple, dans l'extase matérielle de Leclésio, à un moment, il dit, je sais plus ce que c'est, la nuit tombe, et elle tombait aussi sur, et là, il y a une liste de 50, 100 villes. Ça fait partie des effets littéraires et d'un travail plastique. Premier aspect. L'autre aspect, c'est à la dimension, je reviens à Sandrars, du collage, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qu'on a trouvé, que ce soit un article de journal, soit une photo, et on le colle. Et là, effectivement, on peut aller sur un site internet d'érudits local qui donne la liste de tous ceux qui sont allés tenter la fortune outre-Atlantique et le mettre. Là aussi, c'est un travail, je dirais. Et puis, il y a un autre aspect, outre l'aspect rythmique, parce que la liste induit un rythme. Et là, c'est peut-être le drummer, le batteur espitalier qui prend le pas sur l'écrivain et le poète, ou les deux travaillent ensemble. Et troisièmement, je dirais la posture quasi physique et mental à la fois de l'écrivain espitalier et d'Eugène, et notamment le moment où Eugène décide de rentrer. Il prend le train et il fait quasiment toute la traversée de l'Amérique, le nez à la vitre, et nous on le suit et on se laisse bercer par tout ce qu'il voit. Et là aussi, cela crée un effet liste. Les choses se succèdent sans qu'on ait le temps de les saisir, de les analyser et de les intérioriser. C'est comme ça, quand on est dans le train, vous regardez défiler les pylônes, les maisons, vous savez pas qui vit dans cette maison et qui utilise ce vélo. On peut pas développer, on peut pas analyser. Et là, justement, ça crée au contraire un effet spécifique que moi j'aime énormément, qui est l'effet du défilé. Alors c'est aussi vrai pour Eugène qui voit passer toute l'Amérique à sa vitre, c'est vrai aussi pour Espitalier qui compte comme des haricots là, un peu les gens qui sont allés outre-Atlantique. Donc voilà, ça moi j'apprécierais plutôt, et c'est ça peut agacer, mais ça existe, je dirais.
Un dernier mot, Victor Massé de Lépinay.
J'ai beaucoup aimé aussi ce voyage-retour à travers les États-Unis d'ouest en est. Et ce qui est intéressant, c'est que le voyage aller passe en une page. Eugène, on ne sait pas, il part de... Finalement, il y a plus d'exotisme pour lui entre les Alpes et le Havre que la traversée des États-Unis d'est en ouest. Mais au retour, c'est là qu'il découvre tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est une des pages très réussies. J'ai trouvé que malheureusement, sur les États-Unis, il y avait aussi un certain nombre de pages pleines de poncifs, quelquefois sur les États-Unis protestants, le sens des affaires, enfants gâtés, qui était un peu dommage. Je suis d'accord avec le côté batteur, que François semble file la métaphore avec ce côté batteur. Il y a certains breaks de batterie qui sont un peu m'as-tu vu, un peu tour de force, quoi, quelquefois.
Je pense que c'est voulu, mais bon. La dispute maison, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup François Angelier, merci Victor Massé de l'Épinay, Cowboy de Jean-Michel Espitalier, apparu aux éditions Inculte. La Dispute Maison est un programme rendu possible grâce à Aïssatou Endoy, Lola Schidler, Arnaud Laporte et Boris Pinault. Il est réalisé par Émilie Valla. Merci à toute l'équipe du web de France Culture pour la mise en ligne. La prochaine dispute, ce sera samedi prochain. Arnaud Laporte discutera avec Marie Richeux et moi-même d'une pièce de théâtre en ligne. Je disparais d'Arne Ligre, mise en scène Stéphane Brunschweig.